France Inter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une application qui va aider les scientifiques à lutter contre la pollution sonore. Voilà, si vous vivez dans ce type d'environnement sonore, eh bien vous allez pouvoir mesurer vous-même le niveau de bruit lors de vos déplacements et aider en même temps les chercheurs à cartographier la pollution sonore de votre ville. Et ça, tout simplement avec votre téléphone. Voilà ce que propose cette application Noise Capture, développée par le CNRS et l'IFTAR. Axel Villard, on en discute aujourd'hui avec l'acousticien Judicaël Picot.
Bonjour à vous, Judicaël Picot.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur du laboratoire acoustique et environnement de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Et vous avez imaginé depuis 2014 cette application Noise Capture pour téléphone Android seulement pour le moment. Tout d'abord, expliquez-nous un petit peu ce que permet de faire l'application.
Alors, c'est une application développée en collaboration avec le CNRS, des spécialistes de l'information géographique, qui vise à pouvoir cartographier le bruit dans l'environnement plus facilement qu'on ne peut le faire aujourd'hui avec des appareils professionnels. Donc l'utilisateur ou le contributeur a son téléphone dans la main, lance l'application, se déplace, enregistre des bruits, donne une évaluation de sa perception de l'environnement sonore et transfère ces données sur un serveur qui nous permet ensuite de collecter l'ensemble des données, tous les contributeurs, et puis de cartographier ou d'avoir en tout cas des informations pour mieux évaluer l'environnement sonore.
Alors on l'a testé, cette application au bureau, Axel, ça marche bien.
Ça marche bien,
tout
c'est
le
très
monde y est allé de son petit cri pour faire monter les décibels. Comment ça se passe concrètement, Judicaël Picot? L'application collecte les données de notre microphone en continu ou pas?
Alors, c'est l'utilisateur qui déclenche la mesure. Il n'y a pas de mesure en arrière-fond ou en arrière-tâche. Il faut être volontaire. Ensuite, le microphone du téléphone capte les sons. On réalise un traitement qui permet de calculer des indicateurs acoustiques très simplifiés qui sont ensuite envoyés vers le serveur. Il n'y a aucun enregistrement audio, c'est important. On respecte la vie privée des utilisateurs. On ne fait que transférer des données précalculées qui n'ont pas de contenu ou d'informations sur le contenu en fait de la parole, par exemple.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors, de toutes ces données une fois qu'elles arrivent dans vos serveurs?
Alors l'objectif, c'est d'avoir une base de données relativement importante pour pouvoir avoir une bonne évaluation de l'environnement sonore. L'objectif, c'est vraiment dans un premier temps de collecter de la donnée, de la traiter, de la nettoyer, de la qualifier pour pouvoir produire des cartes de bruit qui soient ensuite pertinentes, par exemple pour une collectivité qui souhaiterait l'utiliser pour établir des plans d'action, préserver des zones calmes, lutter contre le bruit dans des zones où il y a des bruits relativement élevés. Voilà, c'est un peu l'objectif.
Mais il y a un gros besoin, on connaît mal la répartition du bruit dans les villes.
Aujourd'hui, bon, il faut déjà avoir un peu le contexte. Il y a une directive européenne qui oblige les villes de plus de 100 000 habitants à cartographier leur collectivité. Ces cartographies ensuite servent à l'établissement de plans d'action, mais aujourd'hui, elles sont uniquement basées sur de la modélisation. Donc elles ne permettent pas d'avoir une représentation suffisamment proche de la réalité. Donc là, avec ce type d'application, on est au plus près de la réalité du bruit. Et du coup, les collectivités pourront utiliser ces mesures de manière beaucoup plus pertinente pour établir des plans d'action, comme préserver des zones calmes, par exemple.
Jean-Robert Pitt, on entendait ce mot de cartographie du bruit. Ça doit interpeller le géographe que vous êtes, évidemment.
Ben oui, les géographes essayent de tout cartographier, d'essayer de comprendre pourquoi les choses se produisent ici et pas ailleurs. Donc le bruit fait partie. Il y a quelques travaux de géographes sur la question, mais moins que dans d'autres disciplines.
Donc cette application va pouvoir justement participer à ces travaux. C'est tout à fait utile.
Et en tant qu'utilisateur de l'application, est-ce que moi j'ai accès en direct aux cartes qui se construisent avec la communauté?
Oui, complètement. L'idée, c'est que l'utilisateur puisse contribuer à la mesure et avoir un retour direct. Donc, il fait la mesure s'affiche sur son téléphone, elle s'affiche sous forme de cartographie, et sur cette cartographie, on peut également afficher l'ensemble des données collectées par les autres contributeurs de manière agrégée. On ne voit pas le déplacement des personnes en question, mais on voit des zones où on regroupe des données, et chaque donnée étant une information sur l'environnement sonore.
Donc si on a bien compris, c'est surtout les environnements urbains qui vous intéressent?
Pas forcément. Alors, c'est vrai qu'on fait souvent le raccourci parce que la pollution sonore, elle est essentiellement perçue, en tout cas beaucoup plus en milieu urbain, puisque pour 2 Français sur 3, c'est une, une vraie nuisance en milieu urbain, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'évaluer les zones où il y a moins de bruit, où justement on voudrait préserver la qualité des environnements sonores, donc des parcs, par exemple, la campagne, ça nous intéresse également. On ne vise pas que les villes, on vise l'intégralité du territoire.
Ça permettra de mettre en avant les sanctuaires du silence, alors peut-être aussi.
Pourquoi pas. Il faut savoir qu'il y a encore quelques temps, on s'intéressait essentiellement au bruit fort, au bruit gênant. Mais depuis quelques temps, on s'intéresse également à des zones où finalement on a préservé l'environnement avec des niveaux sonores très faibles. Et on essaye de s'assurer que dans le temps, on ne va pas perturber ces zones. On essaie de les conserver.
Mais justement, vous en parliez, le son et la localisation au GPS, c'est pas seulement les seules données qui sont fournies par l'utilisateur. Il y a d'autres critères qui sont pris en compte. On l'a vu avec Mathieu tout à l'heure quand on a testé l'application.
Oui, alors c'est vrai qu'on s'intéresse à la quantité physique, des indicateurs de niveau sonore classique, comme on mesure avec un sonomètre. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le ressenti des personnes, parce que la perception de l'environnement sonore n'est pas uniquement liée à la valeur physique d'un niveau sonore. Donc on s'intéresse à avoir des informations sur cette perception à travers des tags, c'est-à-dire que le contributeur, lorsqu'il fait sa mesure, a la possibilité de taguer l'environnement en nous précisant le type de source qu'il a rencontré, mais également en donnant son appréciation sur une échelle de 1 à 5 de l'agrément sonore. Donc allant de très désagréable à très très agréable. C'est une information qui est utile parce que au-delà de la production de cartes de bruit avec des données physiques, comme celles qui sont demandées réglementairement, on a aussi pour ambition de produire des cartes de bruit plus corrélées avec la perception de la qualité de l'environnement sonore.
À partir de quand on commence à considérer un son comme étant un son bruyant, justement, Judicaël Picot?
Alors, c'est plutôt, on va dire, gênant, bruit gênant, parce que un bruit même de faible amplitude peut être gênant en plein milieu de la nuit. Un bruit qui est de on va dire 60-70 décibels peut suffire à réveiller quelqu'un. Donc c'est assez difficile de généraliser. Alors évidemment, plus c'est fort, plus c'est gênant, mais pour autant, des sons même de faible amplitude peuvent être gênants.
Alors, on imagine bien qu'une application comme ça a besoin de beaucoup de contributeurs. Quelle va être votre stratégie pour essayer de recruter le plus de monde possible?
Alors, beaucoup de communication, d'information, ça c'est une évidence. Et puis aussi, on va essayer d'animer la communauté, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer des solutions, des mises à jour régulières de l'application pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Et puis on va essayer également d'organiser des événements qu'on appelle des noces capture parties, où on va réunir des contributeurs intéressés, qu'on va former, on va faire un peu de pédagogie, on va leur expliquer l'utilisation de l'application, on va faire avec eux des mesures pour les encadrer un petit peu, et après ces mêmes personnes pourront à leur tour, s'ils le souhaitent, organiser ce type d'événement, et comme ça on va espérer avoir une communauté de plus en plus grande qui pourra contribuer à notre projet de recherche.
Mais si vous faites trop la fête, ça va faire trop de bruit alors, oui, ça va fausser les mesures.
Ouais.
Mais on veut venir à la Noise Capture Party quand même, on veut être invité absolument.
Ouais, alors alors évidemment, c'est façon de parler, mais bon, le côté festif, les fêtes, tout ça, ça fait partie de notre environnement sonore, il faut aussi le cartographier, c'est un événement à un moment donné sur un territoire, et bon, ça fait partie du bruit qui nous intéresse également.
Merci beaucoup, Judicaël Picot. Donc on a mis sur le site de la Tête au Carré,
et
Axel,
sur Facebook aussi,
le nom de l'application Noise Capture, donc c'est valable pour Android pour l'instant, sur smartphone Apple, mais ça va venir, vous nous l'avez dit. Merci beaucoup à vous pour votre éclairage, bon week-end Axel, à
lundi. Bon week-end, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si vous êtes asthmatique, il y a peu de chances que vous développiez la maladie de Parkinson. Cette découverte nous vient d'une équipe de chercheurs norvégiens qui vient justement de mettre le doigt par hasard sur le fait que le salbutamol, la molécule utilisée dans les inhalateurs prescrits aux personnes asthmatiques, avait un effet protecteur contre la maladie de Parkinson. Après avoir fait cette découverte en laboratoire, les chercheurs ont cherché une confirmation dans leur registre médical norvégien et ils l'ont trouvé. Une confirmation de taille puisque les personnes ayant reçu du salbutamol au moins une fois au cours de leur vie étaient trois fois moins nombreuses à avoir développé la maladie. Il remarque aussi que le niveau de protection dépend du niveau de consommation de la molécule, une découverte qui va certainement être suivie par des tests cliniques. Une flopée de biodiversité nouvelle en Amazonie, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a présenté avant-hier un rapport dénombrant 381 nouvelles espèces découvertes dans la grande forêt. Les experts dénombrent 216 nouvelles plantes, 93 poissons, 32 amphibiens, 20 reptiles et oiseaux et 20 mammifères, dont un petit dauphin d'eau douce et un nouveau singe appelé singe Titi. En 17 ans, c'est 2000 espèces qui ont été découvertes par le WWF, qui rappelle que certaines sont malheureusement déjà en danger du fait de la déforestation et des activités humaines. Et puis les images et vidéos de nature calmeraient les prisonniers. Une étude menée dans une prison de l'Oregon suggère que dans des conditions d'enfermement et de privation de liberté, la vue d'un paysage sauvage ou d'un extrait de documentaire peut être apaisant. Proposé à un groupe de 45 prisonniers à l'isolement, des films documentaires ont été ajoutés aux rotations quotidiennes de programmes dans leur salle d'exercice. Après un temps d'observation, les chercheurs montrent que les prisonniers ayant regardé ces vidéos ont commis 25% d'actes de violence en moins que les autres et se sont également déclarés plus apaisés.